La vie est surprenante et je crois beaucoup qu'on a beaucoup de renaissance. Voilà, on peut renaître. On est bon quand on est passionné et là, il se passe quelque chose, quoi.
J'irais mieux comprendre de l'altitude.
Oh, voilà. Voilà. Ouais, ça, c'est bien.
Bienvenue dans la troisième saison de Altitude, le podcast des facultés de l'Université catholique de Lille qui s'intéresse au parcours des anciens étudiants. Je m'appelle Ismaël Othmani, étudiant en Master 2 de journalisme à la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, et aujourd'hui, j'échange avec Angélique Lemaire. Elle, son parcours commence en 2004 lorsqu'elle intègre un Master Informatique à la Faculté Libre des Sciences et Technologies. De son statut de chef d'entreprise à son envie de repenser le monde, vous passerez les prochaines minutes à découvrir une personne qui a dédié sa passion à comprendre les autres. Souvenirs, anecdotes et philosophie, voilà ce que vous réserve le premier épisode de la troisième saison de Altitude. Bonjour Angélique, comment allez-vous?
Ben très bien Ismaël, et vous?
Ça va très très bien, merci beaucoup. Alors on se plonge un petit peu dans votre CV, et si jamais je dis une bêtise, n'hésitez surtout pas à m'arrêter, je saurais reconnaître mes torts. Alors on commence par le semi-commencement, parce qu'on va commencer en 2004, une année notamment connue pour le lancement de Facebook, mais surtout pour l'année où vous avez intégré le Master Informatique spécialité conception et intégration des systèmes d'information à ce qui est aujourd'hui la FGES, et qui était à l'époque la FLST, donc Faculté Libre des Sciences et Technologies de l'Université Catholique de Lille. Donc un master qui va se conclure en 2006, ça sera votre deuxième diplôme post-bac. Ensuite, c'est le début d'une carrière bien chargée. Alors, diplômée en analyse existentielle, coaching d'élèves pour le groupe MHD. Vous avez été aussi animatrice à la fresque du climat. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un atelier collaboratif et créatif pour sensibiliser sur le changement climatique. Ensuite, membre du FCE, femme chef d'entreprise. Parce que oui, en mai 2017, vous fondez l'Impermanence, donc un magnifique jardin et surtout un lieu où vous invitez les gens à faire le lien avec la nature et exercer votre profession de coach et facilitatrice. Alors, première question qui me paraît évidente, c'est rare, c'est atypique et surtout moi c'est la première fois que j'entendais parler de ce métier. Alors concrètement, en quoi consiste votre métier ?
Eh bien merci Ismaël pour ce reparcours et de m'avoir permis aussi de me replonger un peu dans mon passé et un peu tout ce chemin qui m'a mené à créer effectivement l'impermanence. Alors concrètement, voilà, donc je suis avant tout coach pour dirigeants, pour entreprises et pour tout le monde en fait. Donc le coaching, c'est le fait d'accompagner quelqu'un ou une équipe ou une organisation à atteindre un objectif, à se révéler, à s'éveiller aussi au regard de ce qui se passe aujourd'hui et de ce qu'on souhaite demain. Enfin, c'est vraiment ça l'intention d'un accompagnement en coaching. Et donc moi, je me suis spécialisée dans tout ce qui tourne autour de la transformation et du changement.
D'accord.
Dans un premier temps, le changement, il faut l'accepter.
C'est maintenant.
Voilà, c'est ça, c'est maintenant. Et il y a cette phase d'acceptation du changement, de compréhension et puis de mise en action et de mise en mouvement. Donc voilà, moi je suis, j'accompagne ça. Et j'accompagne ça sur tout ce qui va tourner autour des enjeux du climat, de la planète, du vivant et puis des enjeux sociaux.
D'accord. Et du coup, au quotidien, ça va être quoi le genre de mission que vous allez recevoir ? C'est-à-dire quel type de profil vous allez rencontrer et comment ça se passe globalement ?
Alors, je rencontre aujourd'hui beaucoup plus des organisations, des entreprises qui viennent à moi en me disant, effectivement, on a pris conscience que la planète va mal et on sait que c'est pas nous qui allons la sauver, hein, c'est pas l'intention, mais par contre, on veut faire quelque chose, on veut faire notre part. Et comment on fait ? Comment on y va ? Par où on commence ? Et comment on embarque aussi tous nos collaborateurs ? Donc, ils viennent effectivement à moi pour ça. Et du coup, on va dessiner. On va déjà prendre conscience de, OK, d'accord, qu'est-ce qui ne va pas sur la planète et comment on peut changer les choses dans le contexte de l'entreprise. Et puis, qu'est-ce qu'on met en action, qu'est-ce qu'on met en mouvement. Donc, effectivement, moi, je suis sur toute cette phase de prise de conscience, de compréhension et de mise en action.
Une chose qui m'intéressait beaucoup, on parlera du parcours après, mais la première mise en abîme de l'impermanence, c'est que c'est une connexion avec la nature.
Tout à fait, voilà.
C'est ça. Et donc, c'est quoi ce rapport-là concrètement ? Qu'est-ce que vous voyez ? Est-ce que les personnes qui viennent en entreprise, qui sont un peu dans leur quotidien, métro, boulot, dodo, qui sont loin des arbres, loin de la nature, loin de l'oxygène, est-ce que quand ils se rendent compte de la beauté et du bienfait qu'on a quand on respire du vrai air, ça change leur perception de la vie ?
Ah, complètement. Alors, je pense qu'on le sait tous aujourd'hui que la nature fait du bien. Il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour le prouver. Et c'est peut-être ça qui manque parfois, c'est de se dire, on sait que ça fait du bien. Mmh. Et on l'a tous vécu par le passé. Moi, j'amène beaucoup les gens à se dire, mais rappelle-moi un souvenir que tu as avec la nature dans ton enfance. On a tous des chouettes souvenirs qui nous font du bien. Et effectivement, ce lieu, je l'ai créé pour permettre aux gens de sortir de leur quotidien, de leur environnement de travail et de se retrouver dans un autre environnement qui est un jardin qu'on observe, dans lequel on rentre en interaction par juste le regard, mais aussi prendre l'air, le toucher, etc. Un peu tous les sens. Et effectivement, il se passe beaucoup de choses en soi à ce moment-là dans l'interaction. Et ça fait du bien bien.
C'est ça, oui.
Et les idées arrivent, et les envies d'agir, et les projets se mettent en place.
C'est vrai que c'est un très beau parcours, j'ai essayé de l'illustrer un petit peu tout à l'heure. Alors, bon, ça fait un petit moment, on a dit, on parlait 2004-2006, donc à l'époque, avant que ce qui était la FLST devienne la FGES. Mais quel souvenir vous gardez globalement de votre passage à l'Université catholique de Lille ?
Eh bien, j'en garde un très, très bon souvenir. Et tout à l'heure, quand je suis arrivée dans la cour, et forcément, voilà, c'est comme dans un endroit. Et ce lieu que j'ai créé, c'est ça, c'est aussi, on y crée des souvenirs. Ouais. Et moi, quand je suis revenue, les souvenirs sont revenus. Et effectivement, j'ai eu un parcours où, avant d'arriver dans cette fac-là, j'ai fait un DUT informatique. Okay. Et puis, c'était un choix aussi de me dire, mais tiens, peut-être que je ne suis pas trop faite pour les études. Et qu'un DUT, ça me mettait en confort de se dire, je peux démarrer une vie active. Et au final, le DUT m'a plu. Le programme du master me plaisait beaucoup. J'ai dit, j'ai envie de poursuivre. Mmh. Ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est qu'il y avait quelque chose qui était nouveau. C'était un nouveau master. Ouais. Et donc, moi, j'aime beaucoup la nouveauté. voilà, ça permet effectivement d'aller chercher ma créativité. Il y avait quelque chose de très familial. On était dans mon souvenir, on n'était pas beaucoup d'étudiants en classe. Et ça, moi, j'adorais. Mmh. Il y a ce côté où on peut se sentir libre d'être soi-même, parce que ce n'est pas toujours évident quand on est dans des amphithéâtres avec beaucoup de monde, d'oser s'exprimer. Et moi, j'osais pas trop m'exprimer à l'époque sur ce qui me plaisait, ce que je ne comprenais pas. Et ce côté-là qu'on retrouve beaucoup effectivement dans cette école, ce côté voilà, on va être en groupe restreint et ça va permettre de s'exprimer librement. Il y a cette sécurité que je ressentais avec les étudiants, avec les professeurs, un cadre, voilà, un peu une famille, ma deuxième famille, parce que j'avais mon appartement toute seule à Lille et voilà, je venais un peu retrouver ma famille ici, donc ça me plaisait beaucoup.
Vu que c'est souvent l'acheminement de la licence au master, on rencontre des gens qui sont venus dans un master dans l'espoir de trouver des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt qu'eux et il y a souvent cette synergie entre des gens qui pensent pareil et qui agissent pareil. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Ouais.
Ah ouais, complètement, c'est vrai ça, c'est important de le souligner, c'est que arrivé au master, on commence à déjà sentir la vie active qui se profile. Mmh. Et pour la dessiner et faire quelque chose qu'on aime, on va effectivement être beaucoup plus focus sur un master qui va dire, tiens voilà, si je me centrais là-dessus, sur cette spécialité, et me retrouver avec des gens qui partagent la même passion que moi, forcément, les échanges, l'envie, l'énergie, la motivation sont là.
Ouais. C'est ça. Alors bon, justement, pour revenir sur ça, j'allais dire que le grand écart est important entre le diplôme et ce que vous faites aujourd'hui. Pas vraiment parce que vous avez exercé le métier d'ingénieur pendant 10 ans, donc dans des équipes informatiques et marketing, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
À quel moment, entre le moment où vous avez été diplômé, cette expérience-là, donc de 10 années à faire de l'ingénierie pure, en marketing, dans des trucs très concrets, à quel moment vous êtes dit, j'ai envie de me libérer un peu, m'émanciper et se lancer dans ce projet-là qui est très ambitieux.
C'est vrai que j'ai une différence entre mon diplôme d'informatique et aujourd'hui ce que je vis qui est très dans l'humain et très dans la relation et dans la nature et voilà beaucoup moins dans les outils. Mais il y a une vraie logique et c'est un vrai chemin de vie, moi je trouve. La vie est surprenante et je crois beaucoup qu'on a beaucoup de renaissance. Voilà, on peut renaître. Et il n'y a pas d'âge pour renaître. On peut renaître à 30 ans, à 40 ans, en devenant maman, en passant à l'âge adulte, mais aussi en découvrant chez soi, quand on vit une expérience professionnelle, une passion et un appel à autre chose. Donc, j'ai eu des expériences dans des équipes informatiques passionnantes qui m'ont permis de rencontrer des gens. Et c'est toutes ces rencontres-là qui ont amené à ce que, et si ? Et si je faisais autre chose ? Donc, et puis, il y a toute la famille aussi et tous les amis qui vous voient évoluer, qui se disent, mais c'est super ce que tu fais, mais regarde, voilà aussi là où tu brilles un petit peu dans les relations humaines. Et alors, c'est mon expérience chez ADEO, ADEO Service, donc le groupe dont fait partie Leroy Merlin. C'est une entreprise qui est extraordinaire parce qu'en plus de mon métier qui était très centré sur les outils informatiques, on peut faire d'autres choses dans l'entreprise pour les collaborateurs. On a une idée, on a envie de faire quelque chose et on peut proposer effectivement de transformer l'entreprise par sa bonne volonté. Et donc moi, j'étais là-dedans et avec d'autres personnes, on a créé la semaine du bien-être en entreprise pour les collaborateurs. On offrait sur des temps du midi pendant une semaine des massages, de l'ouverture d'esprit, savoir penser différemment le monde.
Oui. Ok, d'accord. Oui, c'est beaucoup plus que du team building, là, pour le coup.
On offrait vraiment un moment pour les collaborateurs, à la fois de bien-être du corps, au travers de massages et d'autres choses, mais aussi du bien-être de l'esprit et de se dire, on va regarder un peu comment fonctionne le monde aujourd'hui. On faisait des keynotes, etc., et d'autres choses. Et j'adorais faire cet événement-là. Ça me mettait vraiment dans une ébullition de passion. J'adorais prendre soin des collaborateurs. Ça fait partie un peu sur ma marelle de vie à un moment donné d'un jeton que j'ai mis dans ma vie qui dit il y a eu ça entre autres.
Moi je trouve ça très intéressant que vous associez réorientation et renaissance.
Oui.
J'aime beaucoup cette idée-là parce que c'est vrai qu'on a, enfin, je pense que beaucoup de gens et les étudiants qui vont écouter vont pensent souvent que réorientation c'est un synonyme d'abandon, alors que ce que vous décrivez vous c'est une renaissance. Moi j'aime beaucoup cette idée-là de renaissance. C'est comme ça que vous le voyez en fait.
Ah oui, moi je le vois comme ça parce que alors on peut effectivement se réorienter parce qu'on souffre. Voilà, ça c'est faut l'accepter aussi. Parfois on souffre là où on est dans son poste et quand on le voit et qu'on le comprend et qu'on l'assume, eh ben il est peut-être temps de partir. C'est important. Ouais. Mais aussi parfois on est inspiré par ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on entend, parce qu'on rencontre et de se dire, mais savoir aussi écouter cette voix qui dit, mais tiens, et là je me sens passionnée. Et on est bon quand on est passionné. Et je savais que comme je me passionnais par l'humain, par l'envie de l'accompagner, j'allais être douée là-dedans parce que ça me passionnait et que du coup, voilà, il fallait que j'aille explorer cette voie-là. Et
justement, en parlant d'explorer de nouvelles voies, on en parlait plutôt avec les chargés alumni, c'est plus la FLST, mais aujourd'hui c'est la FGES, donc Faculté de Gestion, Économie et Sciences, qui propose donc toujours des masters informatiques, notamment deux masters différents avec deux notions essentielles qui sont abordées dans ces masters. C'est le management et la gestion de projet. Alors vous qui avez basculé vers un métier de passion, il y a tout de même dans votre métier une réalité managériale, vous devez gérer des projets, des collaborateurs. Donc, est-ce que c'est important d'avoir ces notions-là, même si on est dans un métier de passion ?
Ah, complètement. Et moi, je suis même venue dans cette formation qui se crée parce qu'il y avait cette gestion de projet, ce management qui se crée dans les outils informatiques. Voilà, on était très dans la technique et l'outil. Et je sentais qu'effectivement, c'est chouette de savoir techniquement développer une application, maîtriser des serveurs, etc. Mais derrière, il y a tout un environnement qui est le projet. Et ça, les outils évoluent, la technologie évolue, mais une gestion de projet, effectivement, ça évolue, mais pas au même rythme. Alors moi, je trouvais que c'était hyper intéressant et c'est tout à fait des notions qui sont passionnantes parce que on apprend aujourd'hui l'adaptabilité d'un projet. Un projet, ça bouge, ça change et donc ce sont des moments de formation qui nous permettent d'appréhender ça. Et puis en fait, dans le management, il y a effectivement cette notion humaine, de la relation à l'autre, bien de sûr. S'exprimer, de poser des questions, de comprendre, de reformuler pour bien cadrer les choses. Quoi. Je pense que voilà, c'est important effectivement d'avoir ce pôle-là dans une formation aujourd'hui.
C'est vrai que ce rapport-là à la cohésion des autres et à la compréhension de l'autre pour bien faire son travail, c'est essentiel dans ce que vous faites, clairement. Et est-ce que c'est quelque chose que vous instaurez même dans votre collaboration avec vos collègues, les personnes qui travaillent avec vous? C'est une priorité quand vous commencez à travailler ensemble, de créer cette relation humaine avant d'avoir une relation professionnelle?
Ah oui, tout à fait. Moi, dans le coaching, ce qui est important, c'est qu'on crée donc une relation avec quelqu'un. Il faut qu'il y ait un feeling. Et ce qui est important, c'est avant même de se dire qu'on travaille ensemble, c'est de se dire, mais voilà ce que je fais, voilà ce que je propose. Est-ce que ça convient? Est-ce que ça match? Est-ce que la personne en face va sentir l'énergie et l'envie de travailler avec moi? Donc, je crée effectivement ce climat de rencontre que je fais la plupart du temps au jardin parce que je trouve que la nature est un bon lien pour créer une relation humaine avec quelqu'un. Et si ça fonctionne bien, on travaille ensemble. Ouais.
Oui, c'est vrai, c'est une manière de prendre du recul quand on est dans la nature. On a l'impression de moins être dans son confort habituel et du coup, on a plus ce rapport-là beaucoup plus humain à notre relation avec l'autre et à la relation avec la planète. Du coup, on a souvent tendance à plus s'ouvrir et à comprendre que on est aussi juste de la nature et on est juste un existentiel dans la planète Terre.
Tout à fait. Et même au-delà de prendre du recul, moi je pense même qu'on prend de la hauteur.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait la prise du recul fait qu'on voit la relation dans une dimension qui est juste le recul. Quand on prend de la hauteur, on voit vraiment l'ensemble de la relation et là il se passe quelque chose, quoi.
J'irais même qu'on prend de l'altitude.
Oh voilà. Là, ça, c'est magique.
C'est fou. Comme le destin fait bien les choses.
Voilà, j'adore.
Alors aussi, du coup, quand j'ai fait le tour sur votre site, alors vous avez eu La Voix du Nord, s'est intéressé à votre projet.
Oui.
Vous avez fait beaucoup de présentations vidéo, etc. pour vos projets. Est-ce que c'est une transition qui s'est faite naturellement, ce rapport-là à la caméra, à s'exposer beaucoup plus? Est-ce que c'était dans votre nature? Est-ce que vous avez appris des choses ici? Comment ça s'est passé?
Alors, aujourd'hui, quand on se lance un peu seul dans une activité, pour se faire connaître, même si effectivement je suis très dans la nature, les outils de communication que sont les réseaux sociaux, la publicité, etc., sont un vrai levier pour se faire connaître. Les relations humaines sont effectivement le levier essentiel, d'aller rencontrer les gens à des salons, mais juste à un dîner ou au pied d'une gare, etc., de pouvoir parler de soi et de son métier, ça a beaucoup de sens. Mais effectivement, les outils de la communication sont importants. Alors, j'ai fait du théâtre, donc je pense que je suis plutôt à l'aise avec ça. Et par contre, quand on n'est pas à l'aise avec une caméra, le fait de parler ou d'exprimer un projet, il y a des gens aussi, des coachs qui accompagnent.
Oui,
voilà, autour de ce qu'on peut appeler des pitchs et des choses comme ça pour permettre de prendre confiance en soi face à un écran, une caméra, une photo et un podcast.
Micro.
Et un micro, voilà.
Mais c'est vrai, ici aussi, on a ce rapport-là aussi. C'est-à-dire que les studios radio, les studios télé, etc. ne sont pas réservés exclusivement aux étudiants de master ni de licence qui sont prioritaires dans des métiers multimédia, mais c'est ouvert à tout le monde. Donc peu importe, c'est-à-dire par exemple une personne qui fait un master d'informatique, etc., peut venir créer sa propre émission, commencer à parler, se familiariser, et puis du coup avoir votre aisance au micro le jour où elle sera invitée pour parler de son parcours de retour de master informatique.
Ah bah c'est chouette, mais ça c'est une vraie chance que vous ayez effectivement ces locaux-là qui vous permettent effectivement de vous familiariser avec la communication. Et ce qui est important d'utiliser ces outils-là de la communication, c'est d'aller chercher le feedback. Ouais. D'un ami, d'un collègue, d'un prof, voilà, pour se dire, mais voilà, voilà, comment vous voyez mon retour, etc. Et de faire aussi son propre feedback. Se dire, mais voilà, comment je me vois? Qu'est-ce qui va, là, dans ce que j'exprime? Qu'est-ce qui marche bien? Et toujours penser à ça. Mais tiens, mais où est-ce que je pourrais m'améliorer? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que, voilà, je brille un peu plus dans ce que j'exprime?
Et justement, quand vous étiez en formation, c'est-à-dire en 2004-2006, la première fois, est-ce que vous aviez déjà des bribes d'idées de ce qu'allait être l'impermanence aujourd'hui, ou c'était encore, c'était pas du tout dans votre esprit à l'époque?
Alors non, c'était pas du tout. Alors déjà, c'était pas du tout concret parce que je n'avais pas ces terrains-là pour imaginer ce jardin qui fait quand même 6000 mètres carrés. Donc voilà, j'avais pas ces terrains-là. Alors j'avais par contre en moi la passion de la nature. Et ça, c'est les racines. C'est de là où je viens. Voilà, je suis née en Picardie, en pleine campagne. J'avais des parents et des grands-parents très reliés à la nature, à la terre, au potager, etc. Et donc ça, c'était des racines fortes. Et moi, je suis arrivée à Lille. Donc je suis passée de la campagne à la ville pour moi. Alors ça a été extraordinaire parce que ça m'a appris la vie sociale, l'humain, l'autre. J'ai adoré alors la vie festive aussi. D'ailleurs, ça faisait peur à mes parents de me dire, ouh là là, on lâche Angélique dans une ville. Qu'est-ce qu'elle va devenir?
Et une ville festive en plus.
Une ville festive, ben, j'en ai profité et j'en profite encore. Hein, mais voilà, ça leur faisait peur. Donc quand j'étais là en formation, j'avais pas l'idée de ce projet-là. C'est vraiment de se dire que peut-être qu'aujourd'hui, les étudiants d'aujourd'hui sont... à un stade dans des études. Voilà, et c'est génial parce qu'on rencontre des gens, on vit une expérience. C'est peut-être pas le chemin de la vie de demain. Et voilà, aujourd'hui, parfois, on dit souvent, et ça fait peur aux jeunes, mais on ne sait pas quels seront les métiers de 2030.
C'est ça.
Oui, ok, mais aujourd'hui, on aura toujours besoin de gens curieux.
Oui, oui.
Enfin, demain, pardon, on aura toujours besoin de gens curieux qui s'intéressent à l'autre, qui sont éveillés, qui ont appris des choses, qui ont... Voilà, c'est ce qu'on appelle le savoir-être. On en aura besoin en 2030 et c'est les études qu'on fait aujourd'hui le permettent. La technologie va s'adapter, les écoles vont s'adapter, mais effectivement, à nous, effectivement, l'humain, on peut développer toutes nos capacités d'être à travers notre personnalité, nos compétences intérieures. Et ça s'apprend dès qu'on est enfant, mais ça s'apprend encore plus quand on est dans la vie étudiante, un peu plus autonome, un peu plus responsable de sa vie aussi, parce qu'on quitte un peu le foyer familial et les parents. Et donc se dire, cette vie étudiante, elle va m'apprendre énormément de choses à travers les matières, etc. La rencontre avec les professeurs. Vous avez la chance aussi ici d'avoir, je ne sais plus, peut-être 400 intervenants extérieurs du monde de l'entreprise qui partagent leurs expériences et leur vie, et toutes ces interactions-là feront la force des enjeux de demain.
C'est ça. Bah, effectivement, et c'est le cas pour ce que vous disiez, il y en a des centaines, et puis c'est le cas pour beaucoup d'autres formations. Et c'est vrai que dans la mienne, on a beaucoup d'intervenants extérieurs qui ont beaucoup d'expérience, qui nous apportent parfois 25, 30 ans d'erreurs, d'apprentissage, de j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et c'est une mise en abîme sur ce qu'on va pouvoir faire qui est hyper intéressante. Et justement, en parlant de rencontres humaines, est-ce que depuis votre master, il y a une personne, un souvenir qui vous a marqué, qui vous a accompagné tout au long de votre parcours?
Alors là, comme ça, la personne qui me vient pendant ma formation en master, c'était mon binôme. Mon binôme, il s'appelle Fabrice.
D'accord.
Et je lui fais une petite dédicace du coup. Fabrice, en fait, c'était un binôme extraordinaire pour moi parce qu'effectivement, il était très doué dans les outils informatiques, très passionné, très généreux, avec une grande simplicité. Et je voyais chez lui sa personne, au-delà de toutes ses compétences qu'il faisait. Et il m'a aidé déjà à réussir le master, parce que parfois je doutais de mes compétences techniques. Et lui venait rassurer ça, il venait m'aider. Et c'est toute la générosité de l'autre que j'ai pu voir en lui. Et en fait, cette générosité-là, je l'ai retrouvée partout, dans plein de rencontres de ma vie professionnelle, de ma vie personnelle. Et je pense que c'est important de le souligner, quoi. Il faut savoir s'appuyer sur des gens qui sont là aussi pour nous aider et qui ont envie d'aider. Donc, il incarnait vraiment ça.
Eh bien, merci beaucoup, Angélique Lemaire, pour cette belle interview. On va conclure dans quelques minutes, mais avant ça, je voulais faire une séquence un petit peu plus personnelle. Alors, je vais vous poser quelques questions rapides et puis vous me dites ce que vous en pensez.
Première question, Angélique Lemaire, est-ce que vous avez une plante ou un arbre préféré?
Alors, j'en ai beaucoup. là, en fait... J'ai eu une pensée, voilà, de la fleur de la pensée, là, d'un seul coup, parce que j'aime beaucoup cette fleur multicouleur. Oh, okay. Mais j'ai surtout aussi l'arbre, enfin, j'ai planté dans le jardin des arbres à papillons. Mm-hmm. Et c'est juste incroyable. J'ai découvert cette force de cet arbre liée à un virus qui permet parfois la transformation et la métamorphose des papillons, parce que c'est un arbre qui s'offre un peu aux papillons pour créer énormément de cocons. Mm-hmm. Et on a la sensation qu'il est en train de mourir. Et d'accord. En fait, non. Il offre une part de sa vie et de son espace pour l'éclosion des papillons. Et une fois qu'ils sont partis, l'arbre se met à vivre et il y a vraiment cette transformation et cette métamorphose qui se passe entre les deux et quelque chose de très symbiotique. Voilà, la symbiose dans la nature, c'est quelque chose qui est très inspirant.
Et puis c'est beau parce que ça rappelle un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, l'idée d'avoir l'impression qu'une réorientation c'est une mort et puis au final c'est une renaissance, c'est un
exactement,
peu ça.
Très
l'impression
inspirant.
Que cet arbre, c'est ça, très inspirant. Voilà. Comme quoi le destin vraiment a décidé de nous faire des belles passes aujourd'hui. Angélique Lemaire, est-ce que vous avez un philosophe préféré?
Eh bien, le philosophe qui me vient tout de suite, c'est Pierre Rabhi, dont je vous ai parlé, et vraiment très inspirant. Il a un vocabulaire dans son livre, voilà, très facile. Et moi, j'invite vraiment chacun à lire ses livres sur le rapport à la nature, le rapport à l'autre, à la sobriété heureuse, qui sont très inspirants. Ouais.
Et puis, c'est inspirant aussi parce que vous avez votre propre philosophie et c'est ce que vous essayez d'enseigner.
Exactement.
Au quotidien. Angélique Lemaire, est-ce que vous avez un souvenir préféré? Alors, de vie, hein, on n'est pas obligé de parler de métier.
Alors j'aime la vie, donc j'ai beaucoup de souvenirs et mes souvenirs préférés, c'est mes souvenirs de rencontres. Alors là, comme ça, spontanément, je repense à mon expérience professionnelle et ma rencontre avec Amandine, voilà, quand on a créé la semaine du bien-être.
D'accord.
C'était une rencontre complètement atypique dans une cave où on imitait des poules, vraiment des poules informatiques, hein, qui faisaient de l'informatique.
Okay.
C'était ça un peu l'idée, c'était un sketch. Et quel souvenir extraordinaire, parce que c'est le point aussi de départ d'une rencontre qui va aussi changer... ma vie, mon envie d'être avec les autres, etc. Quoi.
Faire la poule dans une cave, c'est très atypique.
Voilà,
en
c'est très atypique. Hein, je n'en dirai pas plus.
Et puis c'est ça. Et puis après, on instaure un niveau d'intimité qui après est confortable pour le reste d'une amitié, c'est important. Alors, je m'en doute, je pense savoir quelle est la réponse, mais Angélique Lemaire, enfin, est-ce que vous avez une émotion préférée?
Ah... Toutes les émotions sont belles. Souvent, les gens disent, bah voilà, la peur, la colère n'est pas une belle émotion. Mmh. C'est une belle émotion quand on en fait quelque chose de beau. C'est-à-dire qu'on la laisse pas s'envenimer pour amener derrière une réaction qui va pas. Mmh. Mais quelle belle émotion, la colère aujourd'hui, par exemple, pour se dire, mais ça va pas là, la planète ne va pas. Il faut faire quelque chose. Donc, servons-nous de cette émotion-là. Mais ma plus belle émotion aujourd'hui, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est quelque chose, qui peut effectivement nous relier tous, nous relier à la nature, aimer l'autre, aimer la vie, s'aimer soi. Et donc voilà, c'est un chemin de vie, c'est un chemin qui n'est pas toujours évident. Et vraiment, pour moi, c'est une belle émotion.
C'est une belle émotion et surtout, c'était un très très bon moment. Merci beaucoup,
merci
Angélique Lemaire, de nous avoir accordé cette belle interview. Alors, on le rappelle, pour toutes les personnes qui ont été intéressées par votre projet, qui s'y retrouvent, qui veulent des informations, ça sera sur l'impermanence.com. Et LinkedIn,
voilà.
Ça sera
LinkedIn. Bah, mon profil Angélique Lemaire, avec plaisir si vous voulez échanger avec moi sur le sens de vos études, de votre vie, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Et bah, ça sera super. Et pour les personnes qui ont été inspirées par votre parcours, alors si vous voulez un master semblable à ce que a fait Angélique Lemaire, ça sera maintenant à ce qui est la FGES, donc dans leur master IA, Cyberdata, des masters informatiques tout simplement,
tout à fait.
Avec beaucoup de gestion de projet, de management, etc. Donc comme quoi ça apporte des belles choses.
Exactement.
Encore une fois, merci beaucoup Angélique Lemaire pour ce beau moment. Merci pour cette belle interview. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Et nous, on se revoit très bientôt pour le deuxième épisode du podcast de Altitude.